France Musique.
Musique et moi.
Bruno Mont-Saint-Jean.
Priscille Lafitte. France Musique.
La question ukrainienne est une des plus dangereuses pour l'avenir. De même qu'il est vain de chercher à démontrer aux Ukrainiens que par l'esprit et la lignée, nous sommes tous issus de Kiev. De même, les Russes refusent l'idée que sur les rives du Dniepr vit un autre peuple. Il sera très difficile de ramener le dialogue à la raison. Mais je mettrai dans cette cause tout ce que j'ai de voix et de poids. Il y a en tout cas une chose que je sais et proclamerai en son temps. S'il devait éclater, ce qu'à Dieu ne plaise, une guerre russo-ukrainienne, je n'y participerai pas et je ne laisserai pas mes fils y aller.
Saint-Jean.
Bonjour, Priscille.
Vous avez choisi pour ouvrir cette émission une phrase d'Alexandre Solzhenitsyn. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où elle provient exactement ?
Alors, c'est un texte sur lequel j'ai buté l'autre jour. Je l'avais lu, bien entendu, en son temps, tout à fait par hasard. Ça se trouve dans un bouquin qu'il a publié en 98 qui s'appelle « Le grain tombé entre les meules », qui est une sorte d'autobiographie ou une partie de son autobiographie. Et quand j'ai vu ce texte, les bras m'en sont tombés. parce que c'est une prémonition. Il touche le problème qui est exactement celui de la Russie et de l'Ukraine aujourd'hui. Le fait que les Russes refusent d'accepter qu'il y ait un peuple différent du sien, et le fait que les Ukrainiens ont beaucoup de mal, d'autant plus maintenant qu'on les a attaqués, de voir que, de fait, ils sont issus de la Russie de Kiev. On n'y peut rien, ça c'est comme ça, voilà. Et c'est fantastique de voir que cet homme, j'ai une adoration pour lui, j'ai lu à peu près toute sa littérature, que cet homme
a...
En russe, bien sûr, oui. Que cet homme a, à ce point-là, il y a 30 ans, a mis le doigt sur le problème qui allait se déclencher jusqu'à une guerre.
Est-ce que vous êtes en lien aujourd'hui avec les artistes russes?
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Comment est-ce que
je suis en lien
vous
avec les artistes russes et les artistes ukrainiens? Je connais les deux pays. J'ai des amis partout, y compris ce merveilleux pianiste que vous venez d'entendre, Ignat Solzhenitsyn, qui est le fils d'Alexandre.
Qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui fait carrière là-bas.
Qui vit aux États-Unis, qui est un chef d'orchestre et pianiste. Et je trouve qu'il y a dans cette manière de jouer Schubert quelque chose qui est à la fois le comble de la civilisation et du raffinement. Et une maîtrise pianistique qui fait penser à celle de Gould par son absolue égalité. J'adore ce musicien et je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas vu sur les scènes parisiennes ou dans les festivals de piano. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces choses-là.
Parce qu'il fait carrière aux États-Unis. La mondialisation de la musique a encore ses limites.
C'est très triste. C'est très triste de voir que tous ces mondes sont enfermés dans leur étroitesse provinciale. Il y a des tas de choses que je ne comprends pas aujourd'hui sur les sortes de monopoles qui sont exercés sur, il y a quelques artistes qui sont là, dans tel ou tel pays, puis la scène artistique allemande est cloisonnée, la scène artistique française est cloisonnée de manière éhontée. Enfin bon, ça suscite, disons, des réactions assez violentes.
Votre étonnement, en tout cas. Donc, Ignat Solzhenitsyn, qui est né quelques mois avant la parution de l'archipel du Goulag, pour situer dans le temps.
Et qui a été éduqué, bien entendu, aux États-Unis, mais qui parle un russe absolument magnifique, très riche, comme son père, enfin, le russe de Solzhenitsyn. Vous savez, il a renouvelé la langue russe, il l'a désovétisée. C'est quelque chose de formidable, l'apport de Solzhenitsyn. Ça n'est pas qu'un homme politique, c'est un des écrivains majeurs du XXe siècle, tout simplement.
Alors, on comprend votre attachement, Bruno Mont-Saint-Jean, à la culture russe. Et d'ailleurs, je propose qu'on entende tout de suite une pianiste russe à laquelle vous êtes très attachée, Victoria Postnikova. Mm-hmm. Avec laquelle vous êtes liée aussi d'amitié dans...
Et depuis très longtemps.
Dans les saisons octobre de Tchaïkovski. Thank you. entremêler dans ce double enregistrement votre amour de la Russie, Bruno Mont-Saint-Jean, votre pratique du violon, votre goût pour l'arrangement. On entend côte à côte les saisons, octobre plus précisément de Tchaïkovski, d'abord par Victoria Postnikova, et puis l'arrangement pour violon et piano que vous avez effectué. De Mont-Saint-Jean, pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qui vous a amené à embrasser ainsi ce pays, sa culture, à connaître ses musiciens, à apprendre même la langue? Est-ce que c'est justement pour approcher au plus près de l'âme de la musique russe?
Non, ça c'est le résultat. L'incitation est venue tout simplement de la toute première rencontre que j'ai eue avec David Oistrakh. Simplement. Je ne parlais pas un mot de russe. J'avais assisté à la première fois à un concert de lui en direct. Je connaissais pas mal de disques. Déjà, j'étais tout gamin. Voilà. Et puis, je suis allé le voir après le concert dans sa loge et j'ai essayé de prononcer quelques mots en français ou peut-être en anglais. Je devais connaître l'anglais déjà à l'époque. Et voilà. Et puis, il m'a regardé de son air qui était tellement affectueux. C'était extraordinaire de voir ce grand personnage prodigieux violoniste. Et il m'a dit tout simplement... «Мальчик мой, если ты хочешь со мной общаться, ты должен учиться русскому языку». Ça veut dire, «Mon petit garçon, il faut que tu apprennes le russe si tu veux avoir des contacts avec moi». Voilà. Et donc, j'ai commencé l'étude du russe. Le soir même, j'ai acheté un manuel de russe. Et ça a commencé. Et voilà. Et ça a tracé une bonne partie de mon existence, y compris dans mes films. Il y a eu une grande partie de ces films qui ont été consacrés à la Russie ou à des interprètes russes. Ou à... voilà. C'était pas spécialement pour la musique russe, ça concernait la littérature aussi, les arts, et puis la vie de ce peuple qui est hélas aujourd'hui dans un état de pourriture avancée. Mais c'est quelque chose de monstrueux que je ressens avec la plus profonde douleur. Mais un monde qui fait partie de la civilisation occidentale et de l'Ouest, quoi qu'ils veulent. C'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, enfin, sans la langue, il n'est pas question de pénétrer ce pays. D'ailleurs, je pense que c'est la même chose. Si vous voulez découvrir la culture japonaise, il faut apprendre le japonais. Et même chose pour l'Italie ou la Chine. Voilà, donc ça n'a rien d'extraordinaire.
Ce que j'entends aussi dans ce que vous venez de dire, c'est que vous n'étiez pas seulement intéressé d'échanger avec David Oistrakh pour parler sa langue, mais aussi pour apprendre de son violon, un peu. Parce que vous êtes violoniste, vous, au départ, Bruno Mont-Saint-Jean. C'est
oui,
ça,
bah,
votre
au
première
départ,
entrée.
Au départ et toujours, oui. Musique. Oui, bah, j'avais une passion folle pour ce que David Oistrakh a apporté. Vous savez, pour moi, c'est tout ça, c'est clair, en fait, tout ça. Il y a deux grands violonistes que j'ai pu voir en chair en os. Malheureusement, je n'ai pas entendu Kreisler. Mais parmi les suprêmes violonistes que j'ai connus directement, dont j'ai pu assister au concert, Yasha Heifetz ou Franz Schetti m'ont jamais vraiment intéressé. Je pense que c'est une cultivation du son qui m'a en particulier échappé. Je veux dire, je trouve qu'il n'y a pas assez de variété dans leur jeu. Alors que Oistrakh et Menuhin, pour moi, c'était le comble de ce qu'on a fait en matière de violon, tout simplement. Thank you.
La danse slave d'Anton Dvorak en mi mineur, Yehudi Menuhin au violon, Abraham Makarov au piano. C'est un enregistrement qui date de quand?
C'est un enregistrement de 1945, lors d'un très bref séjour que Yehudi a fait à Moscou, donc à la fin de la guerre. La guerre n'était pas encore tout à fait terminée, et Yehudi a réussi à s'y rendre, il avait été invité, et il y a donné quelques concerts, il y a rencontré David Oistrakh pour la première fois, et c'est étonnant d'entendre cette manière de porter chaque note. Là, c'était pas encore son enregistrement de jeunesse. Il avait fait un enregistrement de cette même chose préalablement, quand il avait 15 ans ou 16 ans. Et là, je trouve que c'est la beauté. Je crois que le public soviétique est devenu fou à l'écouter. Après, il y a eu d'autres problèmes. Le public l'a toujours adoré, mais le gouvernement le considérait comme potentiellement un ennemi.
Votre rencontre avec Yehudi Menuhin, Bruno Saint-Jean, est-elle avant tout une rencontre d'un élève de violon que vous êtes à l'époque avec un maître, ou d'un journaliste face à une personnalité à déchiffrer? Votre envie d'abord, c'est de travailler violon avec lui.
Je n'ai jamais été journaliste.
Vous êtes réalisateur de documentaires.
Oui, je réalise des films, mais je pense que la grande différence, c'est justement que ces films impliquent une connaissance intime qui se déroule sur un grand nombre d'années. Et puis je réalise des films, donc j'en suis. En anglais, on appelle ça director, donc je dirige mes films.
Vous
mène des entretiens. Je suis l'auteur et le réalisateur des films. Donc, ouais. Ça veut dire que la manière de filmer dépend de moi exclusivement, de ma relation extraordinairement forte avec tous ceux avec lesquels j'ai pu tourner.
Mais là, vous avez un rapport d'élève à maître.
Alors, il s'est trouvé qu'avec Menuhin, oui, la connaissance que j'avais de lui, qui remonte à mon âge, quand j'avais 5 ans, 4 ou 5 ans, et j'ai été bouleversé par l'écoute de quelques-uns de ses disques 78 tours. Mais il s'est trouvé qu'en 1962, j'ai eu la chance d'être accepté dans une masterclass qui donnait à Dartington. C'est une école de musique extraordinairement prestigieuse en Angleterre, un endroit absolument magnifique. J'ai même joué là-bas avec Jacqueline Dupré, figurez-vous. Elle était étudiante de William Pleas au moment où on nous a mis ensemble pour jouer le quintet de Schubert. Et j'ai été admis dans la classe de Menuhin. Et là, j'ai découvert le paradis. La première entrevue que j'ai eue vers le monde de la transcendance. Et l'exquise courtoisie avec laquelle, et surtout l'imagination, quand vous venez du conservatoire où tout est étroit, vilain, répétitif, on doit reproduire ce que vous demande votre maître. Avec qui vous dites, c'est au contraire, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la recherche de l'autre, la recherche de qu'est-ce que tu veux dire, comment tu peux le dire, etc. Voilà. Donc ça a été quelque chose d'absolument étonnant. Et c'est 15 jours abouti à son invitation. Donc ce qui fait que j'ai pu jouer avec lui rapidement après. Puis on a eu une relation qui a duré jusqu'à sa mort. Une relation très proche. Et j'ai quand même fini par faire une quinzaine de films avec lui. Et ça a été, je crois, un espèce de monument que j'ai construit, non pas à sa gloire, parce que Yehudi, c'était pas quelque chose qui l'intéressait, c'était sur son art, véritablement, et sur ce qu'il a représenté comme apport au violon du XXe siècle, et qui, je crois, est absolument essentiel et plus profond que celui d'aucun autre violoniste.
Mais est-ce que le fait d'être musicien vous-même change votre distance avec la personne, avec le musicien, le maître que vous avez en face de vous?
Je pense que oui, c'est quelque chose d'absolument essentiel. On a eu les mêmes préoccupations. Que ce soit avec Gould, ses préoccupations, c'était un génie comme il l'était. C'était comment communiquer la musique. C'était ça qu'il cherchait. Donc j'avais exactement les mêmes interrogations, si vous voulez. Donc on s'est trouvé sur un terrain...
Presque à égalité, j'ai l'impression.
Non, pas égalité. Non, vous vous rendez compte, son génie était tellement fulgurant. Mais il y avait cette bienveillance chez lui, et cet intérêt pour l'autre, parce que l'idée de Gould, c'était que la transmission de un à un était l'essentiel. C'était pas la transmission de moi sur la scène que je transmets à 4000 personnes ou à 3000 personnes. Ça n'a pas d'intérêt pour lui. L'intérêt, c'était, bien entendu, les millions de personnes, mais dans une relation de un à un. C'est-à-dire qu'en fait, et je crois que c'est la même chose avec Yehudi, à chaque fois, on s'interroge sur quelles sont les similitudes. Bon, il n'y a pas de similitudes immédiates dans le style. En revanche, j'ai senti ça très profondément avec Yehudi et avec Glenn. C'est que ce qui vous transmet, c'était vous-même. Vous savez, c'est toute l'histoire de Proust. Dans Proust, vous savez que il vous décrit, 70 ans après sa mort, ou 80, même 100 ans après sa mort, il vous décrit, vous, Priscille, et moi, Bruno Mont-Saint-Jean. C'est vous-même qui... Alors, découvrir ça, c'est quelque chose de vertigineux, bien sûr.
Alors, si je vous pose la question, Bruno Mont-Saint-Jean, c'est justement parce qu'un moment particulier m'a interpellé dans vos entretiens avec Glenn Gould. Vous êtes donc avec lui au Canada, au début des années 70. Vous commencez une série d'émissions sur Bach. Vous discutez de la pertinence de jouer Bach sur un piano moderne. Et Glenn Gould vous propose un test, celui de jouer différentes œuvres de Bach et de percevoir quels instruments Bach, lui, avait en tête.
You know, we talked about the mental image that one has in terms of the sonorities that we think the music implies rather than those it specifically requests. So let me play you, as a test, a little prelude that Bach wrote in the early 1720s for his son, Wilhelm Friedman, one of his sons. And you tell me what sonorities you think you hear as opposed to those that actually come out of the piano, okay?
In the left hand, it sounds like a cello, pizzicato, of course.
Of course. And in the right hand?
Well, it's kind of two
sonatas. Donc, vous entendez, vous, Bruno Mont-Saint-Jean, en dialogue avec Glenn Gould sur est-ce que c'est plutôt un violoncelle qu'on entend à la main gauche, plutôt une flûte, on va au bois à la main droite?
Left hand, the cello, whatever it is. But the point is that if you simply play that little prelude, treating the piano as a piano, it's, I think, going to sound like in quite a different sort of piece.
But surely, Glenn, you're not going to argue that the piano is more suited to that music than the harpsichord or the...
Donc vous posez la question, Bruno Mont-Saint-Jean, de savoir est-ce que le piano est réellement l'instrument le plus pertinent? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux jouer sur un clavecin?
Un clavecin ou un clavicorde?
Piano gets you a lot closer to Bach's conceptual notions than the harpsichord ever can. I mean, if you consider that all of the violin sonatas, all of the cello sonatas are really... trio sonatas, and that the harpsichord, the keyboard instrument, forms two-thirds of that trio. It's just unrealistic to think that the harpsichord can ever balance off against the violin, for example, in the way that the piano can.
Alors là, vous chantez avec Glenn Gould, en mimant le violon. Vous êtes parfaitement à l'aise, Bruno Mont-Saint-Jean, aux côtés de
Glenn Gould. Vous voyez, il vaut mieux être musicien, parce que je connais ses œuvres, je suis capable de les jouer et de chanter s'il faut.
Oui. Mais oui, et de dialoguer avec lui. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous venez de vous dire?
Alors, l'idée, c'est... En fait, ce n'est pas du tout nos premiers films, c'est beaucoup plus tard. On a tourné ça à la fin des années 70, une série sur Bach qui a été interrompue par sa mort. Et le premier de ces films, la question c'était quel instrument jouer. Et bien entendu, on examine la controverse tout à fait conventionnelle, est-ce que c'est le piano, le clavecin, le je sais pas quoi. Et ce que veut dire, et c'est à ça qu'on aboutit à la fin, c'est que Bach s'en fichait complètement de l'instrument. Sa musique a une telle solidité structurelle qu'on peut jouer avec des clarinettes, des hautbois, ce qu'on veut. Ça n'a pas d'importance. C'est la musique elle-même qui compte. Et ça a une implication extraordinairement profonde sur, non seulement sur le type de musique auquel s'intéressait Gould, finalement, que le timbre de l'instrument n'avait pas... C'était pas ça le problème. Et donc, ça veut dire que ça élimine, bien entendu, toute la musique de Chopin, toute la musique de l'époque romantique, dans laquelle l'instrument prend le premier, l'objet même de la musique. Et ça mène, finalement, de Bach directement à Brahms, en passant forcément par Mozart, Haydn surtout, et Beethoven, mais toute la musique purement romantique ne l'intéressait pas. Et puis après, vers Schoenberg et les musiques qui ont cette clarté parfaite, qui n'ont pas besoin du timbre instrumentaux, disons. Voilà, c'est ça l'idée. Et elle est très profonde. Et il l'a dit, il l'expose de manière assez humoristique. On s'est bien amusé en faisant ça, en faisant ces petites scènes.
Et puis on apprend aussi dans votre livre « Film et la musique » combien Glenn Gould était capable de réduire une partie d'orchestre sur piano et de même amalgamer la partie de piano et l'orchestre et de ne plus savoir lui-même, de devoir réapprendre la partie piano pour pouvoir la jouer,
ça,
tellement
très...
il a incorporé toutes
c'était
les parties.
C'était très impressionnant. Il y a peu de musiciens. Il y en a quand même quelques-uns qui connaissaient la totalité du répertoire. Il y en a un aujourd'hui qui s'appelle Kit Armstrong. C'est absolument impressionnant. Je trouve qu'aussi ce très grand pianiste qui est Piotr Tandrzejewski, qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de musique que ce qu'il joue en public, parce qu'il joue de la musique de piano. Mais quand il vous sort toutes les symphonies de Schumann, et comme ça de mémoire, tout ça, c'est... Bon, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Mozart avait ça. Puisque, vous savez, avec ce Miserere de Allegri, quand il avait 12 ans, il est revenu du Vatican et on n'avait pas le droit de sortir la partition. Et le petit Wolfgang, à l'auberge où il résidait, a réécrit de mémoire une œuvre qui dure 5 ou 6 minutes. Voilà. Et donc, Glenn avait ça de manière absolument fulgurante. Et voilà, donc, écoutez, avec Gould, en tout cas, ça a été la rencontre avec quelqu'un qui était presque... S'il n'avait pas été aussi délicieux comme personne, il y avait quelque chose de monstrueux dans son génie. La capacité de concentration à un point qui faisait peur, cette intelligence, ce cerveau incroyablement vivant, amusant en plus, parce qu'il y a la dimension humoristique qui était très importante, mais capable des visions les plus extraordinaires. Pas extravagantes du tout, en fait. Moi, je pense que c'était peut-être le personnage le plus cohérent que j'ai jamais rencontré.
Thank you. France Musique, Musique et moi, Priscille Lafitte.
Il existe deux enregistrements des variations Goldberg par Glenn Gould. La version de 1955 et celle-ci, celle de 1980, dont vous connaissez chaque note, Bruno Mont-Saint-Jean, puisque vous étiez là, dans le studio. Vous lui avez même fait réenregistrer certaines pistes et même réenregistrer en playback. Il se prêtait assez facilement à ce jeu-là.
Non, au playback, pas du tout. Pardonnez-moi d'abord, je suis encore sous le... Je tremble encore d'émotion à chaque fois que j'entends cette manière de jouer. Je crois que personne n'est capable de jouer aussi lentement et d'habiter absolument chaque note. C'est quelque chose d'invraisemblable. Mais non, le playback, je l'ai appliqué une seule fois. C'était un court moment, la transition dans la deuxième partie de cet aria. Je voulais, pour le film, faire sentir 50 minutes après son début que nous étions bien dans une situation d'enregistrement. J'ai quitté Glenn en tant que tel pendant quelques secondes pour faire un plan, en travelling d'ailleurs, sur le micro, qui était le signe d'enregistrement, pour revenir vers Glenn. Alors, vers Glenn et son visage, donc il n'y avait pas de problème de synchronisation. Et donc, j'ai fait ce petit plan en playback, je lui ai demandé simplement de jouer, et puis il l'a fait naturellement. Mais je n'aurais jamais pu lui demander d'enregistrer des plans... non synchro, enfin, il n'aurait pas pu se synchroniser curieusement sur son propre jeu. Et c'est très curieux, étant donné qu'il avait cette manière, il avait tout décidé, calculé. Bon, mais il y a cet élément de spontanéité qui reste en lui, alors qu'il a tout effectivement dans la tête, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il fait. C'est très bizarre, parce que normalement, il aurait dû être le premier musicien à s'adapter à un jeu en playback. Surtout dans la musique de Bach, qui effectivement a cette rigueur rythmique. Ça n'était pas le cas, parce que je crois que cet élément de spontanéité dictait son attitude vis-à-vis de l'interprétation de la musique.
Bien ce qui entendu. Est étonnant, ce qui est paradoxal. Ça ressort d'ailleurs dans les films que vous avez faits avec lui, que ce soit sur l'art de la fugue ou sur Qu'un instrument joué Bach, ou ici la variation Goldberg, c'est une impression de grande spontanéité et pour autant tout est pensé, préparé. C'est cette contradiction entre la maîtrise totale et pourtant la vie qui se dégage de ces films.
Oui, et je dois vous dire que ça a été même jusqu'au degré que dans les semaines qui ont précédé les tournages, parce que le tournage des variations Goldberg s'est situé sur plusieurs mois, à chaque fois, quatre ou cinq ou six variations, et il revenait d'un mois à l'autre avec la même conception de l'ensemble, de la totalité. Et ce qu'on faisait avec Glenn, c'est qu'on faisait parfois des inserts. Et là, il était capable de se mettre dans la situation émotionnelle et rythmique de l'œuvre en un instant. Même pour faire trois notes, de temps en temps. Il y a par exemple cette fameuse moment dans la 25e variation où à la fin de la première reprise, il y a un ré à la basse et il a trouvé que son ré était trop fort. Ben, vaguement, bon, avec la sensibilité de personnes comme ça. Bon. Et il a fait ce geste absolument génial qui consiste à demander au violoncelle de jouer moins fort. Le violoncelle étant ce ré à la basse du piano. Bien. Et... il m'avait dit qu'il aimerait refaire ce ré. Je lui ai dit, écoute, sans qu'on ait besoin de prendre l'image de ça, parce que... Et il m'a dit, tout à fait d'accord, parce qu'en fait, il donne l'image d'un chef d'orchestre avec son orchestre. Mais il m'a dit, pour la version sonore, uniquement audio, il faudra que je le refasse, parce que c'est un petit peu trop épais. Voilà. Donc il avait une grande conscience du tournage, et il me laissait une latitude totale. Parce qu'on a souvent dit, mais Glenn, c'était un autocrate, un totalitarien. C'est pas... Avec Glenn, c'était ça qui était absolument sublime. C'est qu'on avait une véritable... C'est l'artiste avec lequel j'ai eu la plus grande collaboration au point de vue filmique. Il me laissait tranquille. On parlait du montage ensemble. On s'est... Donc, avant le tournage, on s'est chanté les variations Goldberg au téléphone pendant des semaines. Et après le tournage, on s'est ressenté chaque variation Goldberg au téléphone pour préparer le montage qu'on allait en faire. Et on a fait le montage ensemble. Donc, c'était une collaboration phénoménale.
Donc, ça veut dire que la version disque qu'on a de ces variations Goldberg de 1981 ne sont pas exactement les mêmes que le film que vous avez fait.
Oui, à quelques notes près. À quelques notes près, simplement. Et je crois que la dernière version de l'aria, celle que vous venez d'entendre, c'est la version pour le film, et dans laquelle il a fait quelques inserts de notes. Il trouvait qu'ils n'étaient pas absolument ce qu'il voulait.
Donc des inserts ou des rustines.
Oui, il a mis quelques rustines. Mais c'était, en un sens, c'est curieux, parce que c'était le pianiste le plus fiable du monde. Donc c'est lui qui avait le moins besoin de montage, dans un sens. Mais lui, le montage avait... c'était autre chose que le montage de correction, c'était un montage de construction. Moi, j'ai appris énormément, il faut dire que ça a été mon maître complet pour filmer, alors qu'il n'avait pas de compétences cinématographiques. Il me laissait tranquille. Mais en
revanche, vous-même, vous étiez tout jeune.
Ah non, là, pour les films sur Bach, c'était à la fin des années 70. Début des années 80.
Oui, donc vous avez déjà acquis un petit peu
de métier. On avait déjà fait nos films en 74. On les avait tournés en 74, c'est ça, oui. Donc j'avais déjà un petit peu de bouteille. À ce moment-là, je connaissais.
Mais la première fois que vous l'avez contacté, vous aviez quasiment pas d'expérience.
J'avais quasiment pas d'expérience, oui. Une expérience d'observateur, mais pas une expérience de réalisateur.
Place maintenant à votre documentaire le plus récent. Un documentaire consacré au chef d'orchestre Klaus Makela.
Play very very strong, super cantabile. This should be much more transparent. So play piano, but with a little bit more. Every note has a little glow. Yeah. 14. It's possible to have the glissando even more. Yeah. Let's do one more time.
I would love to try one day to have a rehearsal where one wouldn't speak a single word. Sometimes one has to speak, though. But in general, speaking is always a waste of time.
After 18, we need to have much more character. It's like Tom and Jerry, even I'm not that generation. Let's do from 20.
Music should not be polite, but the way of approaching musicians should have a certain amount of politeness, I think. I hope that one can still be very demanding without being a complete asshole.
Fantastic. Make sure it's not too slow. Beep, ba, 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 beep, ba, ba. Otherwise it's perfect. Two bars before 23.
Klaus Makela, dans le documentaire que vous lui consacrez sur Arte, qui dit en substance, mon idéal de direction d'orchestre est de dire le moins possible, je rêverais même de ne rien dire du tout en répétition. La politesse, dit-il, est très importante dans le travail et il espère pouvoir être un chef sans être un complete asshole, une pourriture humaine, littéralement un trou du cul.
Alors, est-il... Oui, moi j'ai traduit ça, j'ai mis un sous-titre un peu plus, je disais, un espèce de zozo, sans être un zozo infernal ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est plus fort que ça.
Sans être un vilain zozo.
Oui.
C'est pas plus fort que ça. En anglais, asshole, c'est parfaitement...
C'est un connard.
Oui, non, mais exactement. Ouais. Mais c'est beaucoup moins offensant que trou du cul.
Oui.
Trou du cul, c'est quelque chose qui est un petit peu violent.
Oui, c'est littéralement...
Même chose en allemand, on utilise aussi le même terme. Et c'est acceptable. En français, trou du cul, c'est pas très joli. Voilà,
non.
Donc j'ai traduit un peu différemment.
Mais alors parlons du fond de ce qu'il dit. Est-il à vos yeux d'ailleurs une espèce un peu rare de chef d'orchestre qui arrive à faire l'unanimité musicalement et humainement? À quel étoffe de chef d'orchestre avez-vous touché pendant ce documentaire?
Je sais pas, un type unique. Il est la règle de lui-même, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il a dans la tête toutes les symphonies de Bruckner, toutes les symphonies de Mahler, toutes les symphonies de Beethoven, toutes les symphonies de Brahms, la musique du XXe siècle, la musique du XXIe siècle, les symphonies de Mozart. Vous l'avez entendu jouer, dirige Mozart. C'est génial. Toutes les autres questions, vous savez, toutes ces questions de savoir, on joue avec des instruments anciens, toutes ces coquetteries, c'est terminé. On est devant l'évidence du génie qui vous propose quelque chose qui est repassé par son système de transmission. C'est un type absolument prodigieux et curieux. Et la raison pour laquelle je lui ai posé la question, vous savez, dans mes films, on n'entend jamais ma voix, il n'est pas question.
Ça a changé, parce que dans les films avec Glenn Gould, on vous entendait beaucoup, on vous voyait beaucoup, maintenant vous êtes effacé.
Avec Gould, c'était différent, c'était conçu comme des conversations, c'était conçu comme un échange.
Mais au fur et à mesure de vos films, vous vous êtes effacé.
Non, je m'efface pas du tout, au contraire. Je m'efface pas du tout en ce sens que ça porte ma signature. Mais il n'est pas question ni de me voir, ni de m'entendre.
Oui, mais pourquoi?
Parce que je trouve que tous ces films à commentaires, tous ces films dans lesquels on voit le type enfin, mais qu'est-ce que ça... Ça casse l'idée même du film. Ça n'existe pas. C'est... Moi, je fais des films qui vont être consommés par la télévision, mais je m'en fiche complètement. La consommation immédiate, ça ne m'intéresse pas.
Non, il n'y a même pas de voix off dans vos films.
Ah si, il y a beaucoup de voix off.
Bah là, par exemple, pour Klaus McAllister.
Avec
Klaus,
on l'entend beaucoup en voix
ah,
off.
Ah oui, lui, on l'entend voix off, oui, mais oui. Je veux dire qu'il n'y a pas de voix off.
Ah non, il n'y a pas de commentaire, rien du tout. Non, non, mais jamais, c'est terminé pour moi, ça. C'est, il y a eu quelques péchés de jeunesse. Je pense d'ailleurs que les films avec commentaires, c'est de la téloche. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vraiment, j'espère que certaines de ces choses-là vont peut-être subsister après à ma propre existence. Et donc, voilà, il n'est pas question de me voir. Je pense que, par contre, ma signature est devenue assez forte. Ma signature
bien,
en tant que...
Bien évidemment.
Voilà. Alors, avec Klaus, pardonnez-moi, je lui ai posé la question parce que c'était quelque chose qui m'intriguait énormément. De voir ce type qui est déchaîné. Il est déchaîné, je veux dire, c'est la puissance de sa conception des choses. Le fait qu'il a une présence rythmique et gestuelle qui est absolument extraordinaire. Et je lui ai demandé, mais comment se fait-il que tu es une énigme pour moi? Tu es tellement... Tu as cette présence fulgurante et toujours une extrême gentillesse. Et c'est là qu'il m'a répondu, la musique n'a pas à être poli. En revanche, le rapport avec les musiciens doit toujours être courtois. Et je pense que c'est son, peut-être, un de ses grands secrets. Il faut voir les musiciens, que ce soit à Amsterdam, à New York, à Chicago, à Paris, ils adhèrent à ce qu'il fait. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas rêver mieux pour un chef d'orchestre.
Un jour, est-ce que vous allez accepter cette commande? Je ne peux pas, ça ne me donne pas de salive. Prenez les paroles de Valérie. Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, cela ne tient qu'à toi. Ami, n'entre pas sans désir.
C'est ça.
Donc, pas de désir.
Il faut
alors Valérie dit, n'entre pas sans désir. Lui dit, ça ne me donne pas de salive.
Mais ce désir définit un créateur quelconque. Mais quelle est la spécificité du génie de Stravinsky? Vous ne pouvez pas le définir par quelque chose qui s'applique à tout le monde.
Non, mais vous ne pouvez pas le définir du tout. Il est. Et c'est ce qu'il a répondu à une interview un jour. On lui a expliqué votre technique. Il a essayé de balbutier et puis d'un coup il a dit, écoutez, mon nez est, ma technique est.
Membre de la boulangerie, comme on dit dans les États-Unis. Et ce mot boulangerie, c'est très intéressant parce que ça a commencé à exister, ce mot, un peu ironique, dans les cinquantaines. Comment dit-on ça, in the 50s?
Dans les années 50.
Les années 50. Quand la musique sérielle avait gagné beaucoup de puissance, et il y avait des nouveaux leaders, nouveaux guides, Führer, comme Stockhausen, comme Pierre Boulez, qui a changé tout dans l'ambiance musicale. Et tout le coterie des élèves de Nadia était nommé tout en coup la boulangerie. Mm-hmm. Et c'était relégué à, derrière la scène. Mm-hmm. Un peu abaissé. Mais ce qui est très important, c'est que cette influence de Nadia continue malgré tout ça. Parce qu'il y a un éclecticisme dans la musique. Et la tonalité se retrouve partout, même Penderecki. Et les principes sur lesquels elle a toujours insisté se montrent maintenant plus importants que jamais.
Bruno Mont-Saint-Jean, vous avez débuté votre métier de documentariste avec Nadia Boulanger, notamment. Et on vous doit ce documentaire, dont on a entendu un extrait, un documentaire essentiel sur cette grande dame de la pédagogie, un documentaire intitulé Mademoiselle, puisque c'était son surnom. Et dans ce documentaire, on entend Leonard Bernstein professer son admiration pour Nadia Boulanger. Nadia Boulanger qui s'est tenue en dehors des écoles et des chapelles de la musique contemporaine. Et donc, juste un peu plus tôt, Nadia Boulanger elle-même se faisait le porte-parole d'Igor Stravinsky, dont elle était très proche. Qu'avez-vous appris, Bruno Mont-Saint-Jean, au contact de Nadia Boulanger? À peu près tout?
Non, je ne dirais pas ça. D'abord, je n'ai pas été son élève.
Vous avez quand même assisté à beaucoup de ses cours.
Ah non, mais je la connaissais depuis longtemps, mais je n'ai pas été son élève, c'est-à-dire que je n'ai pas été prendre de cours avec elle. Bien entendu, j'ai assisté à beaucoup de cours du mercredi, juste comme ça, mais je n'ai pas été son élève à proprement parler. J'ai appris beaucoup de choses, en particulier sur une question essentielle, qui est, qu'est-ce que vous faites devant une œuvre d'art? Quel est votre rapport avec cette œuvre d'art? Est-ce que vous voulez en éclaircir le mystère? Ou est-ce que vous souhaitez... Vous ne voulez pas en fait en éclaircir le mystère, vous voulez le transmettre. Mais ça reste un mystère. Et je trouve que la plus belle chose qu'elle m'ait jamais dite, c'était « Je connais tout en musique, je peux tout analyser, mais devant une phrase de Schubert, je ne sais pas. » Voilà, c'est évidemment quelqu'un qui était tout à fait mystique, qui avait un attachement absolument radical à la religion, et qui avait, en même temps, il y avait une grande chose chez elle, d'abord le mélange de la rigueur et de l'abandon. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose était maîtrisé, on s'abandonnait à la musique. C'était un phénomène absolument étonnant, et cette femme, qui est morte donc en 79, à l'âge de 92 ans, dont le père était né en 1815, c'est-à-dire qu'il aurait pu connaître Schubert et Beethoven. Et donc, ce qui m'attache à Schubert et Beethoven, c'est l'intermédiaire de Nadia Boulanger et de son père, et c'est tout. Donc, c'est comme si les générations se bousculaient. Ça, c'est quelque chose d'absolument vertigineux pour la chronologie. Et puis, eh bien, cette femme, aujourd'hui, subsiste, elle existe. Vous savez qu'il y a un nombre de projets sur elle, aux États-Unis, en France, partout, c'est quelqu'un qui revit. Et il y a en particulier, actuellement, à Paris, une pièce de théâtre qui a monté une femme tout à fait étonnante qui s'appelle Véronique Soufflet, qui a monté une pièce de théâtre à partir en grande partie de mes entretiens avec Nadia et de mon film avec Nadia, et de mon livre, si vous voulez, sur Nadia. Voilà, et c'est quelque chose d'étonnant de voir que, en tout cas pour moi, de voir que quelque chose qui a eu lieu il y a 50 ans vit aujourd'hui.
Alors nous faisons encore un dernier aller-retour dans le temps, je vous propose d'entendre Le Quatuor à Rhodes, dont vous venez aussi de signer un documentaire, les entendre dans une œuvre de Benjamin Attahir, Al-Asr. Asre, quatuor de Benjamin Atayir, par le quatuor à Rhodes que vous avez filmé, Bruno Mont-Saint-Jean, qui est à présent en DVD, hein, ce documentaire, dans lequel on sent votre admiration devant le travail, l'exigence du travail de ces jeunes instrumentistes, leur degré de précision jusque dans la justesse.
C'est stupéfiant. Je les adore. Attendez, on a, là, pour ce film, on a eu un travail ensemble, vraiment. Ça a duré un an. Mais avant, je les avais vus énormément. Donc, ce qui fait que je trouve que c'est un des phénomènes le plus formidable de ces gens qui se dévouent à la musique, qui se sacrifient pour la musique entièrement. Et voilà, c'est l'exemple même des grands musiciens.
Est-ce qu'au contact de ces jeunes musiciens, vous apprenez encore des choses, Bruno Mont-Saint-Jean ?
Tout le temps. Ça m'intrigue, ça continue à m'intriguer. Et quand je bâtis une dramaturgie, parce qu'un film, c'est une dramaturgie, bien entendu. C'est un scénario dramatique. Il faut bien trouver quelque chose. Et donc, c'est quelque chose que je suis obligé d'apprendre auprès d'eux. Ça ne peut pas être autrement. Et cette extraordinaire rigueur, cette extraordinaire pénétration de ce que c'est que le son, de ce que c'est que l'interprétation, la modestie. Il y a toute une séquence dans ce film qui a été tournée à Budapest avec le grand compositeur hongrois, György Kurtág. Bien, il joue les œuvres de Kurtág avec un fanatisme de la précision. Eh bien, ils ont accepté avec une modestie incroyable ce qu'avait Kurtág à leur dire. Et d'ailleurs, il y a eu un retour puisque Kurtág a modifié une de ses partitions du fait de leur interprétation. Donc, c'est quelque chose de formidable. Vous allez voir, c'est un très bel épisode du film qui s'appelle Ménage à quatre.
Quatuor à Rhodes, Ménage à quatre, en DVD, donc. Klaus Makela, votre documentaire sortira le 21 avril sur Arte. Et puis, on peut vous lire aussi, filmer la musique, entretien avec Guillaume Mont-Saint-Jean. C'est aux éditions de la Philharmonie de Paris. Et puis, Les Bémols de Staline aussi, qui était paru il y a quelques temps. Merci pour ce temps d'entretien.
Mais écoutez, j'étais ravi de faire ça avec vous, c'était parfait.
Vous avez accepté d'inverser le miroir.
Oui, de temps en temps, ça fait du bien.
D'être portraituré à votre tour. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi ce matin. Valérie Lavalard à la technique, Claire Lagarde à la réalisation, Maud Nourry attachée de production. Passez un très bon dimanche sur France Musique. Et à la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.